Vous écoutez,
les Canadiens manquent des recommandations nationales d'activité physique. Un texte de Jonathan Semah, SEMAH, publié le 19 novembre 2025 dans La Liberté. Participation a publié le 19 novembre dernier son bulletin 2025 de l'activité physique chez les adultes. L'inactivité physique coûte également 3,9 milliards par an au système de santé canadien. Citation, vous rajoutez à ça un 15 milliards de pertes de productivité. Ça, c'est une nouvelle analyse qui a été faite récemment. Fin de citation, précise le Dr Jean-Philippe Chaput, membre du comité de recherche du bulletin 2025. Citation, ça montre quand même des coûts assez astronomiques de ne pas bouger. Et bouger tous les jours, c'est l'une des meilleures pilules pour notre santé physique, santé mentale, et puis ça prévient des maladies chroniques à long terme, indique également le Dr Jean-Philippe Chaput. Inertie collective. D'autres chiffres font état de cette inertie collective. Seulement 27 % des adultes ont déclaré avoir participé à une activité sportive au cours des 12 derniers mois. 35 % des adultes ont déclaré pratiquer des activités de renforcement musculaire, sollicitant les principaux groupes musculaires au moins deux fois par semaine, tel que recommandé. Seulement 42 % des adultes respectent la recommandation de limiter leur temps sédentaire à 8 heures ou moins par jour. Un faible niveau d'activité physique est associé à un risque accru de maladies chroniques, d'anxiété, de dépression et de décès prématurés, rappelle le bulletin 2025. Le Dr Jean-Philippe Chaput, qui est aussi professeur titulaire au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, fait état d'un autre résultat qui l'interpelle, le nombre de pas par jour. Citation, ça a diminué aussi dans les dernières années, quand même beaucoup, lance-t-il. En effet, selon les données du bulletin 2025, seulement 32 % des adultes de 18 à 79 ans vivant au Canada font au moins 7 500 pas par jour, ce qui est considéré comme un mode de vie actif. En 2021, lors de la première mesure participation, 49 % des adultes faisaient le nombre de pas recommandés. Citation, la pandémie a changé les choses. Il y a plus de gens en télétravail, on fait moins de pas, on prend moins de transports actifs, on ne se déplace pas au bureau, avance le Dr Jean-Philippe Chaput comme l'une des explications. L'importance de bouger. Comme l'explique le Dr Jean-Philippe Chaput, chaque mouvement compte. L'idée est de progresser pour tendre vers la barre des 7500 pas. Citation, une personne qui bouge 1000 pas par jour, qui se mène à bouger 2000, elle est encore beaucoup en dessous de cette barre-là, mais elle va avoir des bienfaits substantiels pour sa santé. Et les plus grands bienfaits sont au début. Quelqu'un qui en bouge zéro, qui se met à en bouger 1000, c'est exponentiel. Fin de citation. Le Dr Jean-Philippe Chaput, également chercheur au sein du groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité de l'Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. L'éducation est peut-être une solution à cet enjeu. Commencer jeune à prendre de bonnes habitudes peut permettre d'inverser la situation. Mais le Dr Jean-Philippe Chaput insiste, citation, « Il n'y a pas de mauvais moment pour mieux faire. » Une personne qui n'a pas bougé pour sa vie complète, qui se met à bouger à 60 ans, il va avoir des bienfaits pour sa santé. Mais lorsqu'on commence tôt et qu'on a une base, on sait comment lancer, botter et autres, donc on a un contrôle moteur adéquat et l'on a moins peur de faire du sport ou de s'impliquer dans des activités sportives. Fin de citation. Le bulletin 2025 souligne l'importance de faire de l'activité physique une priorité nationale. Selon Participaction, les investissements des différents ordres de gouvernement sont essentiels. Priorité nationale. Le rapport de l'organisme explique d'ailleurs que seulement 22 % des municipalités de plus de 1000 habitants disposent d'une stratégie officielle pour le sport et l'activité physique. Citation: c'est aménager notre environnement pour que ça devienne plus facile à plusieurs égards. Je pense que les gens aiment une certaine flexibilité. Il n'y a pas une personne qui aime bouger de la même façon. Il y a des gens qui aiment ça avec des activités en groupe parce qu'il y a un aspect social à ça. D'autres aiment ça bouger seul chez eux. D'autres aiment marcher. D'autres aiment jardiner, danser. Il n'y a pas de meilleure activité. On a souvent vendu l'activité physique comme on doit aller au gym. On doit suer pour être en bonne santé, ce qui est complètement faux. Chaque mouvement compte, mais choisissez les activités que vous aimez. D'un point de vue municipal ou de gouvernement, il peut y avoir plusieurs options. Il y a des activités en ligne, les gens peuvent aller en groupe. Plus l'offre est grande, plus on va répondre à la demande aussi. Mais si on a accès à tout, possiblement qu'il y ait quelque chose qui va nous tenter. Fin de citation, fait remarquer le docteur Jean-Philippe Chaput. C'était « Les Canadiens manquent les recommandations nationales d'activité physique ». Un texte de Jonathan Sema, publié le 19 novembre 2025 dans « La Liberté ».
Des progrès et des reculs dans les inégalités entre les hommes et les femmes. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 22 septembre 2025 dans la presse. Dans un nouveau rapport publié en septembre 2025, ONU Femmes dresse un portrait des inégalités entre les hommes et les femmes à travers le monde. Si certains progrès ont été réalisés, d'autres indicateurs sont dans le rouge, s'alarme l'agence. Des progrès dans plusieurs domaines. De nombreux progrès ont été réalisés dans les dernières années pour l'égalité des genres, selon ce rapport intitulé « Portrait de l'égalité des sexes 2025 ». Les filles ont aujourd'hui plus de chances que jamais de terminer leur scolarité. Et la mortalité maternelle a diminué de près de 40 % dans le monde entre 2000 et 2023. Dans les pays ayant mis en place des mesures pour lutter contre la violence, le taux de violence exercé par un partenaire est 2,5 fois moins élevé qu'ailleurs. Et au cours des 5 dernières années, près de 100 pays ont abrogé des lois discriminatoires ou adopté de nouvelles lois pour jeter les bases d'un cadre légal favorisant l'égalité. Des reculs inquiétants et des efforts à accélérer. Le rapport souligne néanmoins des reculs inquiétants, notamment sur le plan des droits des femmes et des baisses de financement des initiatives en faveur de l'égalité. 10 % des femmes vivent dans une pauvreté extrême, un taux qui ne s'est pas amélioré depuis 2020. Et si les tendances actuelles se poursuivent, le monde comptera environ 351 millions de femmes et de filles en situation d'extrême pauvreté en 2030. Aujourd'hui, 676 millions de femmes et de filles vivent à proximité d'un conflit meurtrier, le chiffre le plus élevé depuis les années 1990. En 2024, on comptait 64 millions de femmes de plus que d'hommes en situation d'insécurité alimentaire. Et encore aujourd'hui, à l'échelle mondiale, seuls 27 % de femmes occupent des sièges parlementaires et 30 % ont des postes de direction. À ce rythme, la parité en matière de leadership ne sera atteinte que dans près d'un siècle, indique le rapport. Des objectifs en voie d'être manqués. En septembre 2015, les Nations unies ont adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui s'articule autour de 17 objectifs, de 169 cibles et de plus de 230 indicateurs. L'édition 2025 du rapport montre qu'à 5 ans de l'échéance, le monde est en passe de manquer tous les indicateurs portant sur l'égalité des sexes. J'encourage tous les dirigeants et toutes les dirigeantes à prendre des engagements et à investir dans ce sens et à choisir un monde où les droits des femmes sont garantis à grande échelle et où les bénéfices profitent à toutes et tous, a indiqué la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Baous, par voie de communiqué. Des mesures à prendre. Le rapport cible 6 mesures qui pourraient être prises pour renverser la tendance. L'inclusion numérique, l'élimination de la pauvreté, la protection contre la violence, l'égalité dans la prise de décision, la paix et la sécurité, ainsi que la justice climatique. En investissant 233 000 milliards de dollars d'ici 2050 dans ces mesures, les gouvernements pourraient bénéficier d'une retombée de 342 000 milliards dans l'économie mondiale, calcule le rapport. Lorsque l'égalité des sexes est une priorité, elle propulse les sociétés et les économies vers l'avant, a déclaré Sima Baous, directrice exécutive d'ONU Femmes. Encore des progrès à faire chez nous. Même au Québec et au Canada, bien que nous vivions dans une société démocratique, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore acquise, loin de là. Il est troublant de voir qu'on ne se démarque pas plus du reste du monde dans certains domaines, indique Nathalie Gay, directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités, en entrevue avec la presse. Par exemple, la représentation des femmes en politique n'atteint pas la parité. Aux élections municipales de 2021, moins du quart des personnes élues à la mairie étaient des femmes. Bien que les femmes aient décroché lors des élections provinciales de 2022 46 % des sièges à l'Assemblée nationale, elles peinent à atteindre la parité au sein du gouvernement. Depuis le dernier remaniement au Conseil des ministres, seul un siège sur trois est occupé par une femme. Même constat à la Chambre des communes, où l'on compte 30 % de femmes depuis les élections du printemps dernier. Ça prendra encore 12 élections avant qu'on arrive à la parité, dit en soupirant Nathalie Gay. C'était « Des progrès et des reculs dans les inégalités entre les hommes et les femmes », un texte de Chloé Bourquin, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
Prix Nobel de médecine. Un trio dévoile les gardiens invisibles de notre équilibre immunitaire. Un texte de Laurie Henry, paru le 8 octobre 2025 dans Science et Vie. Le système immunitaire agit comme une force de défense redoutable, capable d'éliminer virus, bactéries ou cellules cancéreuses. Mais ce mécanisme de surveillance produit aussi, par simple hasard génétique, des cellules susceptibles de s'attaquer au corps qu'elles sont censées protéger. Longtemps, les chercheurs ont pensé que ces cellules dangereuses étaient entièrement éliminées dans le thymus, un organe clé de la maturation des lymphocytes T. Pourtant, cette explication restait incomplète. Le prix Nobel de médecine 2025 attribué à Shimon Sakaguchi, Université d'Osaka, Mary E. Brunkov, Institute for Systems Biology, Seattle, et Fred Ramsdell, Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, couronnent la découverte de cellules T régulatrices, véritables gardiens de l'équilibre immunitaire. Leurs travaux, publiés entre 1995 et 2003, ont permis d'identifier le rôle central du gène FOXP3 et de comprendre comment le corps évite de s'autodétruire. Une faille dans le système de tolérance immunitaire. Depuis les années 1980, les immunologistes s'accordaient à penser que la tolérance immunitaire, la capacité du corps à ne pas s'attaquer lui-même, était principalement assurée par le thymus. Cet organe, situé dans la poitrine, est essentiel à la maturation des lymphocytes T. Les cellules T susceptibles de reconnaître les protéines du corps comme des menaces devaient, en principe, être éliminées au cours de leur maturation. Ce processus, appelé tolérance centrale, était considéré comme suffisant pour prévenir les maladies auto-immunes. Mais cette théorie ne tenait pas face aux faits cliniques. Certaines cellules autoréactives échappaient à l'élimination thymique et circulaient dans l'organisme. Cela laissait supposer qu'un mécanisme complémentaire intervenait pour maintenir l'équilibre immunitaire. En 1995, Shimon Sakaguchi, immunologiste à l'Université d'Osaka, publie une étude qui va bouleverser la compréhension du phénomène. Il identifie un sous-type de cellules T porteuses du marqueur CD25 capable de supprimer les réponses auto-immunes, les cellules T régulatrices ou T-regs. Ces cellules représentent moins de 2% des lymphocytes T, mais ont une fonction critique. Elles désactivent ou inhibent les lymphocytes T qui menaceraient les tissus sains. Leur absence ou leur dysfonctionnement peut provoquer des maladies auto-immunes graves. Sakaguchi démontre cette fonction en retirant le thymus à des souriceaux, explique de Guardian. Ceux-ci développent des inflammations multi-organes. En injectant des T-regs, il parvient à restaurer un équilibre. Cette tolérance périphérique, complémentaire à celle du thymus, devient un nouveau pilier de l'immunologie moderne. Le gène FOXP3 au cœur du contrôle immunitaire. Alors que Sakaguchi révélait le rôle des cellules T régulatrices, deux chercheurs américains exploraient un autre mystère. Mary E. Brunkov, biologiste moléculaire à l'Institute for Systems Biology de Seattle, et Fred Ramsdell, immunologiste chez Sonoma Biotherapeutics à San Francisco, étudiaient une étrange pathologie auto-immune chez la souris, la maladie Scurvy. Les souris atteintes développaient de sévères inflammations et mouraient précocement. Leur maladie ressemblait à des formes humaines rares d'auto-immunité sévère. En 2001, Brunkov identifie le gène en cause, FOXP3, situé sur le chromosome X, explique la BBC. Cette mutation génétique empêche la régulation correcte des réponses immunitaires. Peu après, Ramsdell montre que des mutations similaires chez l'humain sont responsables du syndrome IPEX, Immune Dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked, une maladie infantile grave et souvent mortelle. Les enfants atteints développent rapidement des atteintes multiviscérales, confirmant le rôle essentiel de FOXP3 dans la tolérance immunitaire. Ce gène s'avère être le facteur de transcription maître qui commande le développement et le fonctionnement des cellules T régulatrices. Il n'agit pas comme un interrupteur unique, mais plutôt comme un chef d'orchestre coordonnant des dizaines de gènes pour conférer à ces cellules leurs propriétés suppressives. Sans FOXP3, les cellules T régulatrices ne se forment pas ou perdent leur capacité à contrôler les autres lymphocytes. L'identification de ce gène a été un tournant méthodologique. Elle a permis de détecter, isoler et cultiver les T-regs en laboratoire. Pour la première fois, les scientifiques disposaient d'un marqueur moléculaire fiable pour étudier cette population cellulaire. Le lien entre dérégulation génétique et maladie auto-immune devenait tangible, ouvrant la voie à une immunologie translationnelle centrée sur la réparation des freins immunitaires. Immunité, cancer et transplantation. Des applications multiples. Les travaux sur les cellules T régulatrices n'ont pas seulement enrichi la compréhension fondamentale du système immunitaire. Ils ont transformé la manière dont la médecine envisage certaines pathologies complexes. L'un des domaines les plus prometteurs est celui des maladies auto-immunes telles que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques. Dans ces cas, on observe souvent un déficit en T-regs ou un dysfonctionnement de leur activité suppressive. Des essais cliniques visent aujourd'hui à renforcer le nombre ou la fonction des T-regs chez les patients en utilisant des molécules biologiques, des cellules modifiées ex vivo, voire des thérapies géniques ciblées sur FOXP3. Dans certains essais de phase 1 et 2, des patients reçoivent des T-rex cultivés en laboratoire et réinjectés dans le but de calmer l'auto-agression sans recourir à une immunosuppression générale. À l'inverse, en cancérologie, le rôle des T-rex se révèle plus ambigu. De nombreuses tumeurs exploitent ces cellules pour se protéger. En augmentant leur présence dans l'environnement tumoral, elles bloquent l'activité des cellules immunitaires capables de les attaquer. Les chercheurs cherchent donc à neutraliser les T-rex localement sans affecter leur fonction systémique. Cette stratégie est explorée notamment dans les mélanomes, cancer du poumon et de l'ovaire. Enfin, en transplantation d'organes, les T-rex pourraient permettre de réduire les doses de médicaments immunosuppresseurs en favorisant une tolérance spécifique au greffon. Des essais sur le rein et le foie sont en cours, avec des résultats encourageants. Une révolution encore en cours dans l'immunologie clinique. Si la découverte des cellules T régulatrices a profondément modifié la compréhension du système immunitaire, leur exploitation thérapeutique reste un défi. Le professeur Adrian Adey, King's College London, souligne que « nous ne savons pas encore tout des T-rex, ni comment les manipuler de manière routinière en clinique. En effet, leur faible nombre dans le sang, leur sensibilité aux signaux de l'environnement et leur plasticité posent des obstacles techniques et biologiques importants. Des études ont montré que, dans certaines conditions inflammatoires, les T-rex peuvent perdre leur identité et se transformer en cellules pro-inflammatoires. Comprendre les facteurs de stabilité du phénotype FOXP3 devient donc crucial pour éviter des effets inverses à ceux recherchés. Par ailleurs, tous les T-rex ne sont pas identiques. Des sous-populations spécialisées dans différents tissus, intestins, peau, poumons, présentent des caractéristiques propres. Cela suggère la nécessité de cibler ou produire des T-rex tissulaires spécifiques en fonction des pathologies. La thérapie devra donc être personnalisée, basée sur des profils immunologiques précis. Enfin, la recherche explore des combinaisons. Intégrer des T-rex modifiés à des traitements standards ou les associer à des biothérapies ciblées. Des biotechnologies comme CRISPR pourraient permettre d'augmenter l'efficacité ou la durée de vie des T-rex injectés. Tracy Hussle, immunologiste à l'Université de Manchester, note pour The Conversation que cette approche pourrait redéfinir la médecine du futur. Il ne s'agit plus seulement de stimuler ou bloquer l'immunité, mais de la rééquilibrer intelligemment. Ainsi, les travaux de Sakaguchi, Brunkov et Ramsdell continuent d'inspirer une génération de chercheurs à la frontière entre biologie fondamentale et médecine personnalisée. C'était Prix Nobel de médecine. Un trio dévoile les gardiens invisibles de notre équilibre immunitaire. Un texte de Laurie Henry, paru le 8 octobre 2025 dans Science et Vie.
Création d'un institut pour former ceux qui aident les victimes de violences conjugales. Un texte de Stéphanie Marin, publié le 17 novembre 2025 dans Le Devoir. Un nouvel institut voit le jour au Québec afin d'épauler la lutte contre la violence conjugale. Il se veut la courroie de transmission des meilleures pratiques et vise à outiller tous ceux qui sont appelés à intervenir, d'une manière ou d'une autre, auprès des victimes. La création de l'Institut ECHO a été annoncée lundi par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, le Regroupement. Il est né, entre autres, de ce constat. Ceux qui travaillent dans des organismes d'aide ont été en contact avec les victimes dans 76 % des événements de violence conjugale ayant causé des décès, selon le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Autrement dit, dans près de 8 cas sur 10, quelqu'un a eu une occasion d'agir, signale le regroupement, qui souhaite saisir chaque occasion pour tendre la main aux victimes et ainsi renforcer leur filet de sécurité. Il suffit parfois d'une simple question ou d'une écoute attentive pour changer la trajectoire des femmes victimes de violences conjugales. En étant à leur contact, les professionnels ont une posture privilégiée pour faire une différence. Soutien par voie de communiqué, Annick Brazeau, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. ECHO va ainsi offrir des formations, des conférences avec des experts et d'autres outils destinés aux professionnels. Il se veut aussi un carrefour d'échanges pour ceux qui œuvrent auprès des victimes. Il y a des dizaines de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences au Québec, dont les intervenants développent au jour le jour des habiletés pouvant bénéficier à toutes. L'Institut ECHO est ainsi né d'une conviction forte du regroupement. Pour mieux soutenir les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, il faut d'abord soutenir celles et ceux qui les accompagnent. Dans sa première phase, l'Institut cible 4 pôles. Le milieu communautaire, le milieu judiciaire, le milieu de la santé et des services sociaux, ainsi que les employeurs et syndicats. Par exemple, une formation est disponible pour les infirmières, qui sont parfois le premier contact avec une victime et potentiellement leur porte d'entrée pour obtenir de l'aide. Une autre vise les avocats en droit de l'immigration, leur offrant des outils pour aider les femmes immigrantes victimes de violences. Besoin d'aide? Si vous êtes victime de violences sexuelles, vous pouvez contacter un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, CALAX, près de chez vous, ou appeler Info-Aide violences sexuelles au 1-888-933-9007. C'était création d'un institut pour former ceux qui aident les victimes de violences conjugales. Un texte de Stéphanie Marin, publié le 17 novembre 2025 dans Le Devoir.